Interview.
2 jours.
À l'écoute de RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr en compagnie de Alain Chocard. Bonjour.
Bonjour.
Le festival de l'écrit à l'écran qui se tient dans la vallée du Rhône.
Ouais.
Autour de Montélimar principalement, dont vous êtes le président, le fondateur. Alors un petit peu d'historique.
C'est ça, oui. Donc ça se tient à Montélimar et au Teil, hein, juste de l'autre côté du Rhône. Un peu d'historique, bah, c'est... moi, je suis cinéaste. La directrice artistique du festival avec laquelle j'ai monté ce projet est aussi réalisatrice et comédienne. Évidemment, on a passé beaucoup de temps à Paris, bien que moi-même j'étais plutôt issu de l'Ardèche que de Paris, mais bon. Et quand l'opportunité s'en est présentée et que je suis venu vivre ici, tout en repartant travailler un peu partout dans le monde, j'ai eu quand même envie de pas me contenter de poser les pieds sur le territoire, de regarder le feu de cheminée l'hiver et de manger des pêches l'été, même si j'adore ça. D'ailleurs, j'ai été élu de mon village. J'ai vraiment envie de m'impliquer. Et puis j'avais envie, voilà, de mener une action culturelle. C'était un peu mon corps de métier, quoi, le cinéma, le théâtre, l'écriture, la littérature, la musique. Et ce festival est né un petit peu comme ça. Et puis aussi, je dirais que ce qui aussi nous a donné un petit peu un coup de pied aux fesses pour dire qu'il faut vraiment y aller, c'était la manière dont, et on l'a vu là il y a quelques mois, la manière dont l'isolement de certaines zones fragilisait la pensée et était véritablement un terreau pour les idées malsaines de l'extrémisme de droite. La culture est une barrière, c'est-à-dire que la culture n'est pas magicienne, mais la culture est une barrière parce que quand on vous fait comprendre que l'autre ne fait pas peur, que l'autre n'est pas un ennemi, quand on montre à un jeune de 14 ans un film iranien ou un film chinois, et puis qu'il se rend compte qu'en fait ces problèmes sont pas très très loin d'être les mêmes, il y a les parents, il y a les potes, il y a les emmerdes, il y a l'école, il y a l'avenir, il y a l'amour, il y a la sexualité... Et ben, tout ça, ce sont des choses qui font du bien, qui sont indispensables. Donc c'était un petit peu tout ça. Et puis, c'est un festival de rencontres. Hein, c'est un festival qui est un festival de passerelles. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup de passerelles avec le théâtre, le livre. Il y a beaucoup, beaucoup de rencontres littéraires. Il y a des lectures, je pourrais vous en parler un petit peu plus longuement tout à l'heure. Il y a de la musique, il y a des concerts. Il y a des expositions de photos. C'est vrai que le cinéma se nourrit de beaucoup d'autres arts. Hein. Sur un film, vous avez aussi bien des costumiers que des staffeurs, des peintres... Que des menuisiers,
même
des écrivains.
Des best boys.
Voilà, absolument, qui est l'assistant du gaffer. Hein, voilà. et voilà, il y a des ouvriers, des intellectuels. C'est un monde beaucoup plus riche que l'image parfois un peu clinquante et nocive qu'on peut en avoir. Quoi. Voilà, moi, ça fait maintenant quelques décennies que je fais ce métier avec passion. J'y ai beaucoup d'amis de tout bord. Donc c'est un peu tout ça, ce partage.
D'ailleurs, ouais, quand vous dites cinéaste, qu'est-ce que vous êtes, en fait?
Moi, j'étais longtemps ce qu'on appelle directeur de la photographie. J'ai commencé
celui
par
qui
être...
tient la caméra,
qui fait la lumière, qui c'est celui qui en fait qui permet d'aider le metteur en scène à faire d'une idée une image. Voilà. Donc aussi bien par la caméra que par la lumière et par les mouvements de caméra, par les choix, par les axes, par le rythme, par la voilà. Donc c'est aussi un grand travail avec les décors, les costumes. Donc après une école de cinéma, moi je suis passé donc par les étapes de l'assistanat, puis je suis devenu assez jeune directeur de la photographie où j'ai travaillé sur beaucoup beaucoup de films.
Quelques exemples, allez.
Alors bon, généralement les gens qui googlisent mon nom, ce qu'ils repèrent le plus, c'est que j'ai fait 10 films de Bertrand Tavernier. Donc c'est un petit peu ce qui m'a collé
bon,
à ma carrière. Voilà.
C'est pas mauvais. Hein.
Non, c'est pas mal. Non. mais j'ai fait aussi des films à l'étranger. J'ai fait beaucoup de films en Afrique. Hein, j'ai fait aussi bien des grosses productions internationales que des films fauchés en Afrique où on avait deux lampes quartz et puis on rechargeait les batteries en pédalant, quoi. Voilà. Et ça, c'est la magie du cinéma. Donc voilà. Et puis maintenant, j'écris. J'ai passé beaucoup de temps à écrire. Je suis scénariste et j'ai réalisé un film que j'ai tourné, donc qui est sorti il y a 4 ans, qui s'appelle Lady Grey, qui est un film que j'ai tourné en Afrique du Sud en 3 langues, en français, anglais et zoulou, avec Jérémy Régnier, Liam Cunningham, qui est Sir Davos de Game of Thrones, mm-hmm. avec Emily Mortimer, Peter Sarsgaard et Claude Rich, dont ce fut le dernier film. Voilà.
Gros casting, ouais.
Ouais, c'était
ça a marché.
Alors malheureusement j'ai eu des très bonnes critiques, c'est toujours plaisant quoi. Malheureusement on était entre les mains d'un distributeur qui est en redressement judiciaire et le film a fait ce qu'on appelle une sortie technique. Voilà, donc ce sont aussi ça les méandres de l'industrie. C'est une industrie le cinéma. Voilà.
Pardon de m'attarder encore un peu sur cette histoire. Je veux dire, c'est pas possible, même ne serait-ce que de le rebalancer sur YouTube, de le faire vivre autrement.
Il vit autrement parce que maintenant les films sont sur d'autres supports. Moi, je suis allé le présenter à.
Il est en DVD.
Ouais. Et puis moi, je l'ai présenté à Dallas, à Miami, à Durban. Voilà, le film, il est encore vu. Je reçois des mails, par exemple, de gens d'un cinéma cubain qui ont vu le film, qui étaient vachement touchés parce que c'est un film qui parle des communautés, du vivre ensemble, etc. Ouais. Quoi. C'est plaisant. Bon, évidemment, on préfère.
Il n'y a pas de sortie sale, mais voilà.
Il y a eu une sortie sale, mais vraiment très, très faible.
Très faible.
Très, très faible, voilà, trop faible, malgré des projections publiques qui avaient été plutôt enthousiasmantes, voilà, puisqu'il y a eu une critique. Heureusement, dans la critique, il y en a qui n'aimaient pas, sinon ça serait louche, hein, sinon ça fait un petit peu élection soviétique. Mais j'ai eu des belles critiques, des beaux retours, donc voilà.
Alors ce petit arrêt, ce petit focus hein, sur une partie très succincte de votre vie, est-ce que justement dans le cadre du festival de l'écrit à l'écran, on a aussi cette possibilité, je pense que les gens sont très curieux de connaître un peu les envers du décor de cette industrie, vous l'avez cité, du cinéma, qu'on sent très rude quand même de l'extérieur?
Oui, alors c'est vrai qu'on mène un peu des actions tout le temps qu'on appelle les coulisses du cinéma. C'est-à-dire qu'à chaque fois, chaque année, on met un petit peu le focus sur un métier. L'an dernier, on a parlé des costumiers, on a fait une exposition de très beaux costumes avec les planches originales, les costumes originaux, et puis les décors dans lesquels devaient évoluer ces costumes, qui était aussi une chose importante, parce qu'il y a eu un vrai travail sur la couleur principalement et sur les matières, pour aussi donner des indications de lumière. Cette année, ce sera pas mal la musique, parce qu'on a Bruno Coulet, le grand compositeur, alors que les gens connaissent surtout, évidemment, pour les choristes, mais aussi pour Microcosmos. Voilà.
Ouais, tous les films de Jacques Perrin.
Voilà, tous les films de Perrin. Hein.
Et La Rivière Pourpre aussi.
Voilà, très bien. Voilà. Ouais, et donc, il sera là pour une rencontre avec le public, et ce qu'on appelle une masterclass. Voilà. Mmh. Donc, on parle beaucoup des coulisses du cinéma. On aura aussi une exposition autour de l'histoire des techniques du cinéma et puis l'histoire de la lumière au cinéma. Qui sera dans le Village des Sciences, qui est un lieu qui va cette année être proposé parce qu'on fait aussi un lien entre les sciences et le cinéma, comme on en fait entre le théâtre et le cinéma, la littérature et le cinéma, la musique et le cinéma. En fait, il y a deux festivals en un. Le programme que vous pouvez consulter aujourd'hui sur notre site, c'est donc le programme tout public, voilà, du 18 au 24 septembre. Mais on a un autre programme qu'on peut voir aussi sur le site, mais qui n'est pas dans le gros programme là, de 80 pages, qui est un programme scolaire. Réservé donc aux scolaires. Il y a quelques films, quelques projections scolaires qui sont ouvertes au public. On le signale au public, parce que des fois, il y a des gens qui n'ont pas envie d'être avec une classe, même si les classes sont plutôt extrêmement raisonnables. On a même des salles de 1000 places au Palais des Congrès à Montélimar, et ça se passe merveilleusement bien. Ce programme scolaire, c'est important, parce que de l'écrit à l'écran, c'est un festival, mais c'est un travail tout au long de l'année. Avec les milieux scolaires, avec aussi les quartiers, avec aussi la ruralité, où on fait du travail d'éducation à l'image. On a fait 70 interventions cette année, par exemple. On a fait 25 films avec les jeunes.
Alors, pardon, c'est dans quel cadre ? Vous êtes invité dans un collège, dans une structure ? C'est alors, les PAP ? Non,
ce
c'est...
sont des ateliers, en fait. Ouais, en fait, on a un système d'ateliers qu'on propose. Donc, alors, des fois, donc, c'est avec la politique de la ville quand on travaille dans les quartiers. C'est avec les établissements scolaires qui font des demandes auprès de la région sur lesquels ensuite il y a des financements de la DRAC qui viennent se greffer. Et puis, là aussi, on travaille pour les collèges avec le département. C'est des choses auxquelles on tient, parce que c'est important d'aller... non seulement on va parler de cinéma aux jeunes, mais on leur en fait faire. Donc ça, c'est plutôt quelque chose de sympathique, quoi. Et donc, ce programme se fait un peu le reflet de ça, ce programme scolaire, puisque donc, on le propose courant mai aux enseignants. Donc c'est un programme qui est fait vraiment bien, bien plus tôt que celui-ci, qui vient de là d'être prêt fin août. On le propose fin mai aux enseignants sans donner de date et d'horaire. pour qu'eux-mêmes fassent un petit peu leur planning idéal. Parce que bon, les habitants de Montélimar, ils viennent, ils ressortent, c'est pas un problème, mais on a beaucoup de visites du nord, du sud, de la Drôme, de l'Isère. On a eu l'an dernier une classe qui est venue 3 jours de Chambéry, 2 classes même. Cette année, on a une classe qui vient de Créteil, en Île-de-France, qui vient passer 3 jours, une classe de spécialité cinéma qui vient découvrir un petit peu ce festival et puis tout le travail justement qu'on fait autour des coulisses du cinéma. Et donc ce programme un petit peu qu'on donne aux établissements, ben on attend ensuite en courant juin les retours des enseignants qui nous disent oui voilà, nous on vient de Villeurbanne, donc on vient pour la journée, on a un quart, mais ce qui serait vraiment bien, c'est qu'il y a la prof d'allemand qui a vraiment envie de voir ce film là parce que c'est pile dans l'axe de ce qu'elle voudrait travailler après dans l'année, mais moi j'aimerais bien avoir une lecture littéraire l'après-midi, est-ce que ça peut être le même jour? On essaye de composer, on y arrive dans 99% des cas, parfois ça nous coûte plus d'argent parce qu'on est obligé de dédoubler des séances, hein, mais on essaie vraiment de le faire. Et puis voilà, et donc ce programme est vraiment un gros festival dans le festival, puisqu'il y a déjà au jour d'aujourd'hui 12 500 élèves inscrits sur 4 jours.
C'est carrément énorme. Oui. Et ça rejoint ce que vous disiez en introduction, cette possibilité par la culture, par cette culture-là, de s'affranchir en tout cas de toutes les idées d'extrême droite, justement.
Voilà, oui, puis ce qui est vraiment important pour nous, c'est que...
L'éducation populaire, quoi.
Ah, tout à fait, tout à fait. Et, on a rencontres. Nous, on a beaucoup d'invités, on a 80 invités qui viennent. Donc là, une grande partie des projections tout public sont accompagnées d'invités, mais par contre, toutes, sans exception, toutes les projections scolaires sont accompagnées d'invités. C'est-à-dire que chaque film est présenté brièvement par un médiateur en 5 minutes qui introduit légèrement un petit peu le film comme ça. Et après, il y a toujours quelqu'un. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul film, une seule séance, une lecture qui n'est pas ensuite l'objet d'une rencontre pendant 30, 40 minutes avec les élèves. C'est-à-dire qu'on ne vient pas juste s'asseoir et on part. On vient, on s'assoit et puis après on discute. Voilà. Et on a à la fois des metteurs en scène comme Dominique Moll, Cédric Clapiche qui vont venir, mais on a aussi par exemple au niveau de la littérature, il y a Dominique Bourgois donc, qui était l'éditrice pendant 30 ans de Toni Morrison, qui va parler autour du film Green Book. Film Green Book qui sera aussi présenté par Thomas Negaroff, qui est un journaliste qu'on voit sur la 5, un grand spécialiste de l'histoire américaine, qui va aussi faire une conférence sur l'histoire des États-Unis, parce que cette année c'est le triste 400e anniversaire du premier bateau qui a amené des esclaves sur le sol américain.
C'est vrai. Hein,
voilà. Alors, il y en avait déjà, des esclaves, mais officiellement, voilà, il fallait trouver une date, c'est celle-là, en fait. Et donc, il va venir parler un petit peu de l'Amérique. Donc, voilà, et puis, parfois, donc, c'est des gens du film. Pour Edmond, par exemple, c'est l'acteur principal qui sera là. Donc, c'est intéressant parce qu'il va parler du jeu. C'est un double jeu, comme c'est un film sur la création de Cyrano de Bergerac. C'est un film sur le théâtre. Et puis, c'est aussi un film sur la création théâtrale et sur le doute. Donc, l'acteur est très, très bien placé pour parler de ça. Comment on joue au cinéma, comment on joue au théâtre et comment je joue le théâtre dans le cinéma. Voilà, donc, je pense que c'est... Et en plus, voilà, c'est un jeune comédien. Je pense que les jeunes vont être contents de pouvoir échanger avec lui.
Donc c'est la 8e édition de ce festival de l'écrit à l'écran du 18 au 24 septembre, Montélimar, Le Teil, et donc de l'écrit à l'écran. Alors on n'a pas arrêté de le dire depuis le début de cet entretien, tout un pan vraiment dédié à l'écrit, à la littérature. Pourquoi finalement ce lien, même dans le titre?
Mais alors, oui, certains se disent, tiens, c'est un festival d'adaptation littéraire. Non,
ça pourrait être une question.
Oui, non, c'est qu'en fait, quand vous voulez faire un film, vous commencez par quoi?
Par un scénario.
Quand il est terminé, vous faites par quoi? Il est sur un écran. Et entre-temps, il s'en est passé des choses. Ben, c'est ça qu'on raconte. C'est tout ce qui a pu se passer. Donc, les costumiers, les machinistes, donc un peu tous les métiers du cinéma.
Et voilà, c'est plus une chronologie de l'écrit à l'écran.
Et puis aussi, c'est toutes les passerelles que vous avez dû emprunter. Donc, quand vous réfléchissez à un film, vous pouvez réfléchir autour de l'histoire. Donc, on a par exemple, on va avoir une très belle lecture donc faite par Didier Bezaz, qui nous fait l'amitié vraiment de faire ce travail. Donc c'est « Et tu n'es pas revenu » qui est un roman de Marceline Loridan-Ivens. Marceline Loridan-Ivens, elle est décédée il y a un an ou plus d'un an. On l'a surtout connue pour avoir été la compagne de captivité de Simone Veil. Elles sont restées amies toute leur vie. Et puis c'est aussi la co-réalisatrice, hein, Ivens, c'était le nom de son mari. Yoris Ivens, c'était un grand, grand documentariste. Ils sont partis dans les années 70 en Chine. Ils ont fait comment Yukon déplaçait les montagnes. Ils en partiront à l'autre bout du monde, des endroits qu'ils ne voyaient jamais de caméra, quoi. Donc, c'est une sacrée femme, quoi. Et elle, quand elle est partie en déportation, son père est parti dans un autre camp et il n'est pas revenu. Peu de temps avant sa mort, ce livre est publié. Hein, et c'est un livre qui est adressé à son père, auquel elle ne s'est jamais adressée, évidemment, à partir du moment où il est parti. Et comme c'est la voix d'une femme qui parle à un père, On a eu envie avec Dicia Loubatière, donc qui est la dramaturge qui travaille sur, parce qu'on fait pas mal de créations de lecture scénique et créations théâtrales qui sont reprises ensuite sur scène nationale. On s'est dit, en fait, ce qui serait bien, c'est que ce soit le père qui lise le texte, le père qui reçoit cette lettre. Donc c'est un montage du texte, parce que lire un texte aussi court soit-il, vous lisez un texte de 130 pages, ça vous prend 2h15, quoi. Voilà. Et puis il y a aussi par exemple Valérie Zenati qui est l'auteur, hein, qui a été très médiatisé au moment de Jacob, qui a eu le prix du Livre Inter. Jacob, qu'on a d'ailleurs aussi mis en scène en lecture et puis qui s'est retrouvé en scène nationale en Île-de-France, qui a été pendant un mois joué à Avignon cet été. Donc on est plutôt fiers, voilà, que d'initier un petit peu ces belles aventures théâtrales.
Alors vous êtes lieu de résidence aussi, ça veut dire ?
C'est pas exactement ça. On est en train de le mettre en place. En tous les cas, on initie dans le cadre du festival, avec des financements qu'on trouve, on initie un démarrage d'un travail. Donc oui, c'est une forme de résidence, effectivement, hein, dont la première restitution, c'est le festival. Et ensuite, donc, c'est vrai que bien souvent, ça donne l'opportunité de trouver d'autres lieux. Comme là, Jacob, ça a été ensuite travaillé à Villeneuve-les-Avignons en résidence, là-bas à la Chartreuse. Et puis ensuite, donc, il y a eu des coproductions. Voilà.
Donc, le festival de l'écrit à l'écran lance aussi tout un tas de productions nouvelles. Au moins une par festival de
quasiment, ces... presque, ouais, presque, ouais. À peu près. On fait pas non plus la course. On fait pas, voilà, si on n'y arrive pas une année, on le fait pas, quoi. On veut pas bâcler. On a trop de respect pour le public. C'est pas démago ce que je dis. C'est que on fait vraiment ça pour le vrai plaisir, c'est que les gens se rencontrent, parlent de films dehors dans la rue après la salle. Les centres-villes de ces villes moyennes sont quand même sacrément frappés, hein, sacrément désertés. Donc oui. Nous voir des gens dans la rue qui restent jusqu'à minuit, 1h du matin pour parler cinéma, pour rire ensemble, pour rencontrer, pour échanger, ça c'est un vrai bonheur, quoi.
Alors ça se passe où ? Vous avez des salles de cinéma ou c'est des salles que vous équipez en cinéma ?
Il y a plein de cinémas à Montélimar, mais on en équipe une quand même. Notre lieu principal, c'est l'auditorium Petrucciani, hein, mais qui est une belle salle de spectacle, mais qui n'est pas adaptée au cinéma, enfin qui n'est pas un cinéma. Donc là, on l'équipe, ça fait que c'est une salle de 450 places, donc on l'équipe avec un écran de 10-12 mètres de base, donc qui fait une belle, belle projection. Ensuite, on a donc le cinéma Les Templiers, qui est un cinéma d'art essai qui est juste à côté de l'auditorium. Ce qui fait que c'est là aussi qu'on crée notre village du festival. On a un village avec un lieu d'accueil, avec une petite estrade et des chaises. C'est là que se passent certaines des rencontres littéraires. Les rencontres après les films, généralement, ça se passe on reste dans la salle, puis on échange. Mais là, on peut ou continuer la discussion, parce qu'il y a aussi, un bar sur le côté. Donc, on peut ou continuer la discussion dehors. On a des transats partout. Ou bien alors, il y a des échanges plus organisés avec des médiatrices et médiateurs dans ce petit village du festival. Et puis, on a deux autres salles partenaires que sont les 7 Nefs et le Palace, qui eux, ont donc 6 et 7 salles, et dans lesquelles, donc, on fait aussi des projections. Et on a pour le scolaire, comme je vous disais tout à l'heure, parce que les projections scolaires, donc il y a vraiment des demandes très très fortes parfois qui se matérialisent autour d'un même film, comme c'est le cas cette année pour Green Book. Green Book, on a eu 1400 demandes pour une seule séance. Et donc il y a eu une très forte demande pour ce film. Et il a fallu ouvrir une salle de 1000 places au Palais des Congrès. Mais comme on était encore au-delà des 1000 places, on a ouvert une deuxième salle. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y aura d'ailleurs deux intervenants sur ces salles. Donc ça, voilà, ça c'est l'autre lieu, mais là uniquement pour les scolaires, ces très grandes salles. Et qu'on a pratiqué déjà, ça fait déjà 3 ans qu'on les utilise, donc c'est pas dingue, quoi. On a fait des super projections, et même avec d'un très très jeune public, hein, pour un film de Perrin, Les Saisons, là, qui était, et il y avait 1000 gamins dans la salle, et ça a été... Ça réagit, ça rit, mais tant mieux, quoi. Au cinéma, on est là pour réagir, pour s'émouvoir, pour frémir quand on a peur, même en le disant un peu fort, ouais. Voilà. Et c'était très, très plaisant.
Et des salles de 1000 personnes, c'est rare quand même, hein. Non ?
Il n'y en a pas tant, ouais.
Il n'y en a pas tant, ouais. Donc, tout Montélimar, le Teil, vibre de films pendant une semaine, ouais. Puisque toutes les salles projettent un peu. Ça veut dire que les salles partenaires que vous avez citées ont, j'allais dire, chamboulent complètement leur programme dans le cadre de ce festival.
Oui, bah alors, de toute façon,
on peut quand même regarder le dernier blockbuster en même temps.
Je pense qu'ils le gardent quand même. Oui. Hein, ils le gardent quand même. Mais c'est vrai qu'il y a une forte demande pour les films qu'on leur propose en soirée. Alors c'est vrai qu'en journée c'est facile parce que en journée, chez nous, les cinémas ne fonctionnent pas. On projette rarement un film à 14h, sauf le mercredi. Et par contre, on leur réserve quand même des soirées avec invités pour qu'ils soient aussi contents de pouvoir dans leur lieu accueillir des invités.
Bon allez, on rentre un peu dans le dur. Bon, 80 intervenants, ça va peut-être être trop long. Ce programme est donc à retrouver sur votre site internet. Alain Chocard, qu'est-ce que vous mettriez en avant sur cette semaine, un petit peu dans les films, par exemple sur la programmation de ces films. Green Book donc a déjà vécu, j'allais dire a eu un vécu aussi en salle, oui, etc. Mais... Donc il peut y avoir des films anciens, des films d'arrêt essai, des nouveaux.
Tout à fait. Alors, Green Book, ça, c'est un film.
Comment
qui
vous
est,
programmez finalement?
C'est un film qui est dans la programmation scolaire. Alors, ben, on a tout un pan d'avant-première. Hein, donc, des films qui ne sont évidemment pas encore sortis. Et certains qui vont sortir dans assez longtemps. On a des films qui vont sortir en février, qu'on vous propose maintenant. On en a 25. On a 25 avant-premières. On fait donc l'ouverture avec Hors Normes, le film de Toledano et Nakache, hein, qu'on a bien connu pour le film Intouchable, et qui là se sont penchés sur le problème de l'associatif autour de l'autisme. Hein. Ils ont fait un film vraiment très. Qui a beaucoup touché, qui a été vu à Cannes. Voilà, et ils vont venir à l'issue du film. Hein. Il y aura aussi pour la soirée d'ouverture un concert de Nash, hein, qui viendra. Et puis la clôture, ce sera un concert d'Olivia Ruiz, et ce sera le film d'Yvan Attal. Mon chien stupide. Mais là, malheureusement, je crois que l'ouverture et la clôture, c'est déjà complet.
Bon.
Voilà, c'est la billetterie a ouvert il y a 4 jours. Mais voilà, regardez bien, il y a donc, je vous dis, bon, il en reste 23 autres avant-première. Hein. Voilà, c'est donc Faïm Kami, qui est un film vraiment, vraiment formidable d'après l'histoire vraie de cette photographe française qui a été tuée en Centrafrique. Le film est très, très réussi. C'est très réaliste sur le travail que peuvent faire les photographes de zones de conflit. Hein. C'est vraiment bien. Il y a Demain est à nous de Gilles Demestre. On a aussi le film de Costa Gavras. Hein, Costa Gavras va venir. Et il a demandé à ce que le débat soit animé par Edoui Plenel. Donc Edoui Plenel aussi va Excellent. Venir animer le débat. Donc c'est son dernier film, Adults in the Room, qui parle de la Grèce, hein, de la crise en Grèce. Voilà, on a un très beau film sur le surf qui est Breath de Simon Bucker que les amateurs de séries télé ont dû voir dans The Mentalist, mais qui est un magnifique acteur et qui est un très touchant metteur en scène, qui a réussi un très très beau premier film. On a le film de Bellocchio, Le Traître. Il y a des films qui sont un peu moins connus, qui sont formidables. On a Liliane et on a la grande chance d'avoir la présence du réalisateur, qui est un réalisateur autrichien, qui est un photographe, un très très bon photographe, et qui a fait un film absolument époustouflant de beauté, qui est tiré d'une histoire vraie. C'est une femme, une Russe, qui se retrouve à New York sans un sou et qui décide de rentrer chez elle. Sauf que pour rentrer chez elle, elle décide de traverser les États-Unis à pied, de se retrouver en Alaska et là, de franchir les détroits de Bering pour être en Russie. Et
elle passe par l'autre côté.
Et elle fait tout ça à pied, hein, elle fait 4500 km à pied. Et c'est son quotidien et c'est très beau parce que le film a été fait de manière... Il n'a pas été fait de manière en reportage ou de manière documentaire, mais il a été fait avec une grande, grande liberté, en toute petite équipe, pour se donner la liberté d'attendre la belle lumière, de permettre à l'actrice d'être dans les émotions. C'est un film très réussi. Il y a Noura Rêve aussi, qui est un magnifique film tunisien. On est justement aujourd'hui, donc c'est le démarrage du Grenelle, voilà, contre les violences faites aux femmes. Hein. Noura Rêve parle de la difficulté d'une femme tunisienne dont le mari est en prison et qui tombe amoureuse d'un autre homme. L'adultère est très très sévèrement puni, donc elle ne peut pas évidemment, sauf si son mari accepte de divorcer du fait qu'elle est en prison, sauf que son mari est libéré. Voilà. C'est une histoire sociale simple d'amour qui est traitée un peu sur le mode du thriller, qui est très beau. Donc, je ne vais pas tout vous dire. Oleg, qui est un film franco-letton, qui est très très beau, qui parle d'un jeune garçon boucher qui vient à Bruxelles pour travailler, plus ou moins avec des papiers, et puis qui se retrouve embarqué chez une espèce de petit caïd d'un gang minable, letton lui aussi, mais qui utilise justement le fait de la difficulté d'être immigrant dans un pays pour complètement les spolier. Donc il a un groupe de types qui l'exploite complètement. Mais c'est un film très beau sur le combat, sur l'affirmation de soi, sur la souffrance. Voilà, il y a un monde plus grand qui est en avant-première aussi, donc la réalisatrice sera présente, hein, qui est un film qui parle de chamanisme, hein. Ceux qui travaillent, qui est aussi un très très beau film avec Olivier Gourmet d'Antoine Rusbach, sur le monde du travail, quoi, comment un homme à un moment donné doit prendre des décisions pour son entreprise mais qui mettent en cause sa moralité personnelle. Donc où s'arrêtent les frontières entre soi et les gens pour lesquels on travaille et qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour les autres qu'on n'oserait pas faire pour soi-même. Voilà, c'est des... Mickey and the Bear, qui est un très beau film américain aussi sur la relation d'une jeune femme et son père. Je dis à chaque fois très beau, vous avez l'impression que c'est...
Bien sûr, qu'ils sont tous... Bah, d'ailleurs, si vous les avez...
On les a choisis, voilà.
Choisis, c'est qu'au moins ils sont beaux.
Oui, parce qu'il y en avait quand même beaucoup. Hein,
voilà. Il y a une autre particularité, c'est qu'ils ont tous cette fibre sociale. Est-ce que c'est vraiment un objectif pour rejoindre tout ce qu'on disait en introduction également
Oui, mais je crois que c'est les cinéastes aujourd'hui qui ont ça aussi. Parce qu'il y a, quand même beaucoup ça. Il y a quand même beaucoup, beaucoup ça. Quoi. C'est dès qu'on a affaire au cinéma dit d'art et essai, même quand il est grand public, hein, tel Odano Nakash, c'est un film grand public, mais on a envie de parler du monde dans lequel on est. Voilà, c'est pas l'image des cinéastes qui roulent dans des voitures décapotables avec des cigares le long de la croisette. C'est des gens qui mettent un peu les tripes sur la table, plus ou moins, avec plus ou moins de confort ou d'inconfort. Mais quand on passe 3, 4, 5 ans à faire un film, on a envie de parler de quelque chose de fort. Et puis c'est vrai que le monde en ce moment est quand même bouleversé, entrechoqué. On peut pas tenir une caméra et puis se contenter de faire rire ou de faire rire un peu avec un peu de cynisme. Hein.
Certains disent même que les gros films à gros budget américains, les grandes franchises, etc., commencent elles aussi à avoir comme ça des éléments de scénar, des moments un petit peu controversables ou qui tout d'un coup s'attaquent j'allais dire à l'hégémonie américaine ou viennent balancer un petit coup d'écologie là-dedans. Enfin, James Cameron a étonné tout le monde quand tout d'un coup, il s'est mis
avec Avatar.
Est-ce que vous le sentez, ça aussi? Oui, enfin, tout le monde le fait, les grosses productions.
Oui, et puis c'est pas nouveau. C'est-à-dire que le cinéma américain a ce qu'on appelle une part économiquement de cinéma indépendant, bon, qui est plus ou moins indépendant, mais bon, qui est quand même un cinéma qui est loin des grands studios, qui est un cinéma aussi des autres États. Hein. C'est comme si... Alors, à une autre échelle, mais c'est comme si on disait il y a un cinéma parisien et puis il y a un cinéma marseillais, il y a un cinéma provençal, il y a un cinéma drômois, voilà. Les États-Unis, c'est ça, il y a un cinéma
de Californie, bon,
du Wisconsin, oui, voilà. Mais il y a le Wisconsin, il y a tout un tas d'États comme ça, des films qui se font au Montana, voilà. Parce qu'il y a des universités, des gens qui font du cinéma dans d'autres, donc qui racontent d'autres choses. C'est pour ça que la ruralité est si présente dans le cinéma américain indépendant et qu'elle l'est aussi peu en France. Et justement, on a quel enchaînement. On présente une très belle avant-première d'un film qui a été tourné ici dans la Drôme, qui s'appelle Revenir. Jessica Palu, la réalisatrice, nous fera le plaisir d'être présente. On a volontairement mis ce film le dimanche après-midi en pensant que ça serait peut-être plus facile pour les gens qui travaillent en zone rurale de venir, les agriculteurs, les éleveurs, parce que c'est un film qui parle de la famille rurale, qui parle de la transmission du patrimoine, du savoir-faire, de l'envie de faire un métier difficile. C'est pas plombant, c'est un film qui est touchant, qui est émouvant, qui parle d'amour. Ça sera le dimanche 22 à 16h à Montélimar et on a beaucoup fait signe à tous les animateurs des différents organismes autour de la réalité, vraiment de dire c'est l'occasion de venir voir un film déjà qui va... Alors des fois on n'a pas envie de voir un film qui parle de soi, mais ça va pas parler de soi. C'est un sujet en tous les cas qui va intéresser, qui va toucher, qui va intriguer. Et c'est l'occasion de venir échanger avec une jeune réalisatrice. C'est rare qu'une jeune femme se plonge dans cet univers. Voilà, c'est l'occasion d'échanger avec ses propres difficultés, ses propres questionnements. Hein.
Tous ces films, donc, sont des avant-premières. Et il y en a aussi d'autres qui ne le sont pas.
Et il y en a plein d'autres qui ne le sont pas. Hein. On a un regard sur le cinéma allemand, par exemple, aussi. On travaille avec l'Institut Goethe de Lyon.
Donc, on a chaque année ou là, spécialement?
C'est pas la première année, mais là spécialement parce qu'on a fait comme on a un partenariat avec Arte aussi. Hein, donc, on a développé le lien franco-allemand. À travers une sélection de films et puis à travers le Village des Sciences. On a aussi cette année, là on n'est pas peu fiers, on a Canal+ qui a demandé à être partenaire, donc on aura dans notre village, on aura voilà, un petit espace Canal qui se fera un peu écho du festival.
Cette question sur les partenaires, alors Arte, Canal, voilà, bon, comment il est perçu justement ce festival par le milieu professionnel? Enfin, on connaît quelques très grands festivals en France qui ont, voilà, qui ont les noms. Bon, Cannes, bien sûr, Deauville, etc. Annecy, sans doute. Le vôtre a une reconnaissance aussi nationale dans le milieu, par les professionnels, les critiques?
Ben oui, puisque... Alors,
les télés, justement.
Oui, on a eu des échos sur France Inter. Là, bon, là Arte va faire... Ils viennent de faire une petite bande-annonce pour présenter le festival. Le meilleur exemple pour vous présenter sa reconnaissance nationale, c'est de vous dire qu'il y a 3 ans, par exemple, ça a été une bagarre. On a quasiment sablé le champagne parce qu'on avait réussi à avoir 3 avant-premières. Il y a 2 ans, on en a eu 11 et on s'est dit, voilà, ouah, quel exploit. L'année dernière, on en a eu 19 et dont plusieurs demandés par les distributeurs parisiens. Et là, on est à 25. Alors, c'est pas un concours, on va pas grimper tout le temps. Hein. C'est pas l'idée. Mais c'est aussi l'idée de dire, voilà, il n'y a pas qu'à Paris qu'on présente les films avant. Il n'y a pas de raison. On a le droit aussi ici de voir les films. Mais c'est les moments où les équipes sont disponibles parce qu'ils viennent parler de leurs films. Ce sont effectivement beaucoup de distributeurs qui maintenant donc sollicitent la directrice artistique Vanessa Lost, l'appellent en disant, écoute, voilà, j'ai un film, ça peut être pour vous. vous, regardez-le. Nous, on voit les films, on reçoit les liens des films. On a vu tous les films. On les a vus pour certains déjà il y a 6 mois, quand ils étaient prêts. Hein. Et puis, on n'hésite pas si un film ne nous semble pas ou bien effectivement correspondre à ce qu'on a envie de montrer au public ou alors trouve pas sa place dans la programmation, ben on le prend pas. Hein. Ça veut pas dire que le film est pas bon. Vous parliez tout à l'heure un peu de lien social. Il y a évidemment pas un fil conducteur thématique fort. On dit pas c'est le film policier, c'est le film d'animation, etc. Mais il y a une homogénéité. Et des fois, elle est un petit peu dure à expliquer, quoi. C'est comme si
ce serait le festival de quoi, justement, hein?
C'est de l'écrit à l'écran. Non, c'est un festival de passerelles et de rencontres, je dirais. Mais c'est vrai ce qui fait peut-être. Il y a par contre un petit peu les grands pans comme ça qu'on donne. Il y a une partie avant-première. Il y a évidemment le programme scolaire dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a un focus. Là, on a le regard sur le cinéma allemand, mais chaque année, on avait ce qu'on appelait un film, un pays. C'est-à-dire qu'à travers un film, on parlait d'un pays, donc on avait des rencontres autour de la littérature, de la gastronomie, parce qu'on fait aussi beaucoup de choses en dehors. On a toute une journée chez Arnaud Soubéran, où il y a des cours de cuisine, on va aussi avoir, dans le cadre du couple franco-allemand, on va avoir par exemple une rencontre avec Paulo Breitner, qui est un spécialiste du football allemand et qui va venir parler des grandes rencontres France-Allemagne, quoi. C'est incontournable. Voilà. Donc il y a ce pôle regard sur le cinéma allemand. Il y a ce qu'on appelle second souffle qui est important. Second souffle, c'est les films qui sont assez récents, passés un peu inaperçus, ou bien parce qu'ils sont passés trop loin de chez nous, ou bien donc voilà, on leur offre une autre chance, comme Yuli, ce très très beau film espagnolo-cubain. Qui raconte l'histoire de Carlos Acosta, qui était ce grand danseur, qui est devenu danseur étoile au Royal Opera de Londres, hein, ou Sibel, qui est un magnifique film turc, hein, sur une jeune fille muette qui vit dans un village où on siffle, hein, de montagne à montagne, on s'exprime par le sifflet, et ce qui est du coup pratique pour elle, et elle va dans la forêt, il y a un loup, paraît-il, qui rôde, qui fait un peu peur, mais elle y va quand même, et en fait, elle va tomber sur un homme qui est recherché, voilà. Et c'est aussi sa découverte de l'interdit. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle le second souffle. Et puis, il y a des sorties nationales. Par exemple, le film de Cédric Clapiche, 2 mois. Cédric Clapiche va venir présenter son film. Il sera sorti le 11 septembre. Nous, on le présente le 20 septembre. Mais bon, Cédric Clapiche va venir rencontrer le public. Donc là, c'est plus une avant-première. Mais c'est un film tout récent avec réalisateur.
Le réalisateur qui a fait la demande de venir, ou c'est vous qui allez les chercher dans ces cas-là? J'allais dire ces films-là, on parlait tout à l'heure qu'il y avait des distributeurs qui maintenant vous proposaient des choses, mais pour les autres.
Mais il y a des films sur lesquels on n'arrivera à personne. C'est-à-dire qu'il y a un film américain, on n'a pas les moyens de faire venir un acteur des États-Unis. Bon, on a fait venir des gens de Roumanie, d'Irlande, d'Italie, voilà, on a quand même un budget restreint et puis on ne va pas dépenser des sommes colossales dans un billet d'avion en première. Hein, voilà. Alors qu'on a du mal à trouver des financements parfois pour permettre d'avoir... donner 3 sous à un stagiaire, donc c'est pas, voilà, par éthique, c'est pas jouable. Non, les distributeurs savent que c'est un festival de rencontres, c'est que ça nous intéresse que moyennement, sauf exception, de présenter un film qui n'est pas accompagné par quelqu'un de l'équipe. Voilà. C'est vraiment ça, c'est vraiment aussi le public vient aussi pour ça. S'il ne s'agit pas de voir une vedette, ça on s'en fiche complètement. Et on a bien vu que le public s'en fiche complètement. Et c'est un tel bonheur de voir qu'ils n'en ont rien à faire. Que c'est pas ça. C'est pas dire ah, j'ai vu un tel et j'ai demandé un autographe. C'est, même si on peut le faire et c'est de bonne guerre, c'est la vie. Mais surtout, c'est de pouvoir. C'est valorisant de voir que des acteurs parisiens viennent chez nous, prendre du temps, échangent. Et il y a vraiment des soirées d'échange qui sont absolument passionnantes. Et je sais, pour en avoir parlé avec des réalisateurs ou des actrices et acteurs, que de la richesse des échanges et puis le côté inattendu parfois. Hein, on a eu il y a 3 ans Abdelmalik qui était venu présenter son film et il y a eu un échange magique de presque 1 heure. Quoi. Il a dit avec une grande, grande générosité, alors qu'il était très pressé. Il a fait un aller-retour express pour nous. Quoi, voilà. Donc tout ça, c'est les distributeurs savent donc qu'on préfère film accompagné.
On a fait le tour des films.
Bon, alors il y a aussi toute une programmation jeune public, hein, pour le tout public. Ah. Voilà, hein, le jeune public et très jeune public. Puis avec des ateliers, il y a un atelier de l'eye painting, il y a une carte blanche dans The Look, c'est la cabane aux oiseaux. Alors
dans la programmation jeune public, c'est des films ou il peut y avoir aussi de l'animation?
Les deux. Les il y a deux. Les deux. Il y a les deux, comme par exemple, il va y avoir une rencontre avec Guillaume Aldebert, hein, que connaissent bien tous les gamins dans les cours de récré, qui va venir parce que il a participé à des films qu'on va montrer, et il viendra aussi échanger, quoi, parler de son métier, parler de cinéma, de chansons, etc. Il y a beaucoup de films, Jacob et les chiens qui parlent, Le voyage du prince, qui est un magnifique film, La fameuse invasion des ours en Sicile, qui est enfin adapté de Dino Buzzati. C'est un livre qui doit être 49, que beaucoup ont voulu adapter. Personne n'y est jamais arrivé. Finalement, c'est l'animation qui a réussi à adapter ce film. Donc ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et puis, on a beaucoup de rencontres littéraires. On a beaucoup de rencontres littéraires avec, par exemple, quelqu'un comme Patrice Franceschi, qui va venir, Sébastien Spitzer. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Valéry Zenati aussi. Pour le Breitner, pour le football, Christine Demazière, Dominique Bourgois, donc l'éditrice de, entre autres, et les éditions Bourgois. Qui n'a pas chez soi une édition Bourgois, hein, et voilà, qui est une femme de culture et d'échange et de partage absolument admirable. Et puis, bon, elle vient pour nous parler effectivement de, autour de Green Book, de tout le travail qu'a fait sa romancière phare et amie, qui était Toni Morrison, qui a eu le prix Nobel et qui est décédée il y a quelques mois, maintenant, à peine quelques mois. Il y a Annie Dupéret aussi qui va venir. Annie Dupéret, qui est quelqu'un d'assez singulier, qui est une actrice qui a été une actrice populaire, qui est devenue une actrice très populaire avec la télévision, et qui est une femme qui a toujours avancé, qui a traversé quand même, qui a commencé il y a pas mal de temps sur les comédies, les films d'Yves Robert, etc. Et puis qui a toujours fait plein de choses. C'est une ancienne danseuse, elle a toujours fait de la photo. Elle a écrit des livres. Elle va venir pour nous parler de tout ça. Et là, je trouve qu'elle représente bien toutes ces passerelles. Et puis des passerelles aussi qui sont justement loin des sérails intellectuels. C'est-à-dire que, Annie Dupéret est une femme simple et qui va venir parler de sa vie et de sa vie d'artiste. Hein, donc, il y a une expo de photos. Hein, qui va être présente au salon d'honneur de la mairie de Montélimar, de l'hôtel de ville, à côté duquel il y aura une autre exposition qui sont les photos d'Étienne Georges. Étienne Georges est un grand, grand photographe de plateau qui a plus de 40 ans de carrière, je crois, donc qui a photographié tous les plus gros tournages français. Et donc on a sélectionné qu'une trentaine, je crois, de ses photos, tellement il en a. Mais voilà, c'est un vrai regard d'un amoureux du cinéma et puis d'un homme discret. Parce que quand on est sur une équipe de tournage et qu'il faut aller piquer des photos sans se faire engueuler par l'électricien parce qu'on marche sur un câble, par le perchman parce qu'on l'empêche d'avancer, ou par le voilà, c'est un métier particulier.
Ouais. Tous les films embarquent un photographe de plateau ?
Alors, de moins en moins, parce qu'on va à l'économie. Il y a des films sur lesquels, avant, il y avait un photographe de plateau pendant tout le film. Il était là tous les jours. Après, on a commencé un petit peu à réduire. Sur certains films, il venait que les jours où il y avait les vedettes.
Pour faire quoi ?
En fait, la photo d'exploitation n'est pas issue du photogramme. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Il y a la photo qui représente une scène du film. Hein. Parfois, on sortait de la pellicule film, la photo, hein, mais pour quand même avoir une grande, grande qualité photographique, il valait mieux le refaire. Donc, généralement, le photographe de plateau, à l'issue de chaque scène ou même à l'issue de chaque plan, il fait une photo. C'est-à-dire qu'il dit, au moment où le réalisateur dit « couper », l'assistant dit « bon, mais c'est bon, on passe à la suite », lui dit « non, une petite photo ». Et il se met généralement dans l'axe de la caméra pour profiter de la lumière, parce que la lumière a été faite dans un axe précis. Pour avoir la photo la plus fidèle à l'idée esthétique du film, mais avec une qualité photographique et puis un regard un petit peu différent. Et il y a eu une époque où il y avait des grands. Alors il y a eu des photographes comme Roger Corbeau, qui était un photographe de plateau. Lui, carrément, il refaisait la lumière. Quoi. C'était des stars, il était sur le plateau, il disait bon, là, ça, tu m'enlèves, ça, c'est moche. Ça, tu me remets quelque chose d'autre, de lumière en contre-jour. Et ça, c'est pas joli. Voilà, il refaisait entièrement la lumière du chef opérateur pour faire ses propres photos.
Et ça servait à quoi ?
Alors, ça servait donc à la promotion du film, d'une part. Et puis ensuite, il y avait les photos de tournage. Hein, les photos de vous avez tous vu des photos d'Hitchcock avec Cary Grant. Ben, c'est les photographes de plateau qui font ça, quoi. Qui faisaient aussi partie de la promotion, mais qui, heureusement qu'on les a, font surtout partie du patrimoine historique du cinéma mondial.
Ouais, donc, c'est un peu dommage qu'il n'y en ait plus.
Qu'ils sont là de moins en moins. Moins, voilà. Ouais. Alors, voilà. Et puis, oui, du coup, certains ont tendance à dire à un stagiaire, tiens, t'as ton téléphone, tu feras 3-4 photos. Voilà. Donc, ce n'est pas des solutions. Surtout quand on connaît la grande, grande qualité des photographes de plateau et des photographes d'une manière générale. Voilà.
De l'écrit à l'écran, ce festival pour rentrer aussi dans les coulisses du cinéma, rencontrer des gens, se poser des questions comme on est en train de le faire.
Voilà, ouais, avec plaisir.
Alain Chocard, président. Donc. Et puis alors, il y a toute une partie, j'entendais, gastronomique, on va manger, on va se restaurer cinéma aussi. Et des concerts.
Et des concerts. On a une journée, ça s'appelle une journée chez Arnaud Soubéran, qui est un le plus ancien nougatier de Montélimar, qui a un musée du nougat, et puis qui a un petit espace restaurant. Le lieu est vraiment très, très accueillant, très chaleureux. Et généralement, on y organise des journées. C'est un de nos partenaires historiques, vraiment, qui nous a suivis dès la première édition. Hein, la première édition qu'on a fait sous un chapiteau avec un projecteur dans une camionnette. Elle était déjà là. Donc voilà, on est content chaque année d'avoir une journée chez elle le dimanche, qui généralement était consacrée souvent à un pays. Donc un film, un pays, ça se faisait effectivement sur les écrans et puis aussi dans la nougaterie. Et là, ça va être donc comme il y a le on a fait un panorama du cinéma allemand un peu plus lourd. Et puis voilà, on va pas non plus faire tous les ans les mêmes choses, on change un peu chaque année, c'est plutôt marrant. Donc là, plutôt que de faire un film, un pays, on a chez elle, il y a une thématique, c'est tout ce qui nous rend heureux. Voilà. Donc il y a des cours de cuisine, d'alimentation végétale, une cuisine végane avec des produits frais, locaux et bio le matin. C'est des ateliers pour lesquels faut réserver. Hein. À 11h, il y a un yoga du rire. Voilà, il y a le yoga du rire. Et puis ensuite, il y a des documentaires qui sont présentés. Il y a une conférence sur le bonheur national brut, le BNB. Et puis il y a l'arrivée du marathon du cinéma. Parce qu'on fait aussi un événement... On propose donc je crois que c'est le vendredi, j'ai pas exactement l'horaire, je peux vous le trouver là, peut-être en feuilletant. Oui, voilà. Le vendredi à 19h30, une ou un invité donne un thème à plusieurs équipes de marathoniens de films.
C'est quoi un marathonien de films ?
Eh ben, c'est une équipe. C'est une équipe qui se constitue. Alors, on les prend pas toutes parce qu'on limite, et vous allez comprendre pourquoi. Donc, alors ils peuvent être 2 solitaires, 3, 4 ou 10. Ils s'inscrivent pour participer à ce marathon et ils attendent avec impatience le vendredi 20 à 19h30 au Salon d'honneur où on leur donne le thème du film qu'ils ont 36 heures pour réaliser. Et 36 heures plus tard, ils nous amènent leur film à la nougaterie Soubéran. C'est l'arrivée du marathon du cinéma et on projette les films qui font chacun 3 minutes maximum.
Voilà. Et tourner comme ils ont envie.
Alors, on préfère qu'ils tournent en plan séquence pour qu'il n'y ait pas de montage. Pour une bonne raison, c'est qu'ensuite, il y a un vote quand même du public sur le film. Et on ne voudrait pas que la maîtrise technique prenne le pli sur l'émotion. Et on sait que parfois, avec le montage un peu d'esbrouf, une bonne musique, hop, comme ça, sur le coup, ça touche le public. Et 2 jours après, on se dit, oh, sur le coup, je trouvais que c'était vachement bien. Et en fait, non. Par contre, je me souviens bien du film qui était complètement branque, là, un peu bricolo. On ne voyait pas bien, mais c'était vachement touchant. Voilà. Et donc, on sait que le montage, parfois, amène une fausse perfection technique qui dit « Oh, celui-là, il est bien mieux que les autres. » Et on sait qu'après, on a un peu d'amertume, on a un peu la gueule de bois. Donc, on préfère que les films ne soient pas montés, qu'ils fassent 3 minutes, c'est un plan séquence, et que ça marche bien. On a des choses vraiment, vraiment formidables. Très souvent de la comédie, très, très souvent. Mais le thème, ça peut être très simple. Ça peut être, par exemple, Liam Cunningham, qui est venu il y a 3 ans, donc le sœur Davos de Game of Thrones, avait eu The Phone. Juste un téléphone, voilà. Et c'était le sujet du film. Voilà, donc voilà, là on ne sait évidemment pas non plus, nous, quel sera le sujet du film. Et la première édition, c'était Bertrand Tavernier qui avait sorti de sa poche le livre Capitaine Conan de Roger Vercel qu'il a adapté au cinéma. Et il avait sorti une phrase, c'était « Vous êtes parti sans payer, hein ?» Voilà. Et ça a fait des films aussi assez drôles.
Donc là, qui va le donner, ce thème-là ?
Alors, je ne veux pas vous dire de bêtises, donc je ne vais pas vous le dire.
Bon, ce sera quelqu'un des invités.
C'est quelqu'un. Je ne sais pas si ce n'est pas Annie Dupéret, je crois, à qui on a confié ça. Mais je ne veux pas vous dire
de bêtises. Donc on ne le dira pas.
On le dira, vous le saurez sur le site, qui est beaucoup mieux informé que moi.
Alain Chocard, des concerts aussi, alors ?
Oui, ben voilà, il y a plusieurs choses. Il y a un espace partenaire parce que ce festival, il ne se fait pas tout seul. Hein. On a des financements, mais on est content d'avoir un équilibre assez sain. On a 30% de subventions, on a 30% d'argent privé et 30% de recettes. Voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, les partenaires privés sont quand même importants. Ils sont très engagés sur le territoire. Ils sont heureux d'être là, d'avoir un événement qui valorise le territoire, un territoire qui est vivant, c'est un territoire qui se porte mieux économiquement. Donc ils sont tous contents. Donc ils nous aident dans ce sens. Mis à part en plus du fait qu'ils sont contents, qui voilà de participer à un truc festif quoi. Et eux, donc ils ont un lieu où effectivement il y a toujours un petit concert avec et puis où ils invitent un petit peu leurs partenaires. C'est l'occasion de se rencontrer de manière un peu informelle. C'est encore un peu la rentrée en septembre, voilà. Et puis on a juste à côté, on a dans le village du festival, on a d'autres concerts. et des rencontres, hein, puisque je vous ai dit que Nash allait faire le concert de la soirée d'ouverture, mais ça c'est donc dans l'auditorium. Olivier Ruiz va faire le concert de fermeture. Alors, ce n'est pas un concert d'1h30, hein, puisqu'il y a quand même un film à chaque fois, hein. Ça précède le film, mais bon, voilà, c'est un petit set d'une vingtaine de minutes. On a les Montes qui vont venir jouer, on a d'autres. Alors, là, vous l'avez au jour le jour, au village ou sur le site, hein, le nom du groupe qui vient jouer, qui fait un peu des apéros musique, quoi. Mmh. Voilà. Mais ça c'est important. Et par contre, Nash et Olivier Ruiz feront une rencontre au village du festival et rencontreront le public dans cet espace qui est dédié à la rencontre, bien souvent, d'écrivains avec le public.
Vous voulez les citer, les partenaires ?
Ça va être super long. Ça va, et puis, non, surtout, c'est que non seulement ça va être très long, mais en plus, je risque d'en oublier. Bon. Et c'est ça le pire, quoi. Voilà, c'est ça qui est très, très embêtant. Alors, s'ils nous écoutent, je les remercie vraiment du fond du cœur parce que c'est un soutien. Je sais qu'on le leur rend bien parce qu'on leur permet d'être présents sur un événement dont ils sont fiers. Voilà, donc c'est un vrai échange de fierté, de collaboration. Pour beaucoup d'entre eux, c'est plus que des partenaires. Hein, je vais pas faire la mention en disant que certains sont des amis, mais certains qui sont devenus très proches. Hein, c'est vrai qu'avec 8 ans de voilà, il y en a un qu'on a pu appeler un dimanche matin. On avait une panne de groupe électrogène, il nous a démerdé le coup, il a appelé un de ses gars qui allait dans son entreprise. Voilà, c'est inestimable. C'est vraiment inestimable. Donc donc je veux pas tous les citer. Ils sont sur le site, sur le programme, et ça prendrait, mais ils seront tous remerciés nominativement pour la soirée d'ouverture.
Est-ce que le festival de l'écrit à l'écran, son activité périscolaire annuelle et tout son fonctionnement, son rayonnement permet d'en vivre pour certains ? Y a-t-il des salariés ?
Il y a forcément des salariés parce que c'est un festival qui est...
Bah, c'est une asso.
C'est une association, absolument. Hein. Il y a, en fait, il y a pas de plein temps. Ça manque. C'est vraiment la prochaine étape, hein, parce que on a des gens qui font presque un travail à plein temps, mais qui ont 6-8 mois de salaire. Voilà, le reste du temps, ça devient du bénévolat. Mais ce n'est pas normal, un salarié, ce n'est pas un bénévole. On a beaucoup de bénévoles et c'est formidable. On a dans le conseil d'administration, vraiment, trésorière, vice-président, secrétaire, qui sont des gens vraiment, vraiment indispensables. Et puis tous les bénévoles du festival qui sont là, qui accompagnent les invités, qui tiennent la billetterie, qui tiennent le bar, tout ça, c'est vraiment, vraiment important. Mais on est obligé de fonctionner avec des salariés parce que vous n'êtes pas bénévole pendant 12 mois dans l'année, sauf si vous êtes peut-être à la retraite. Voilà. Donc, je ne peux pas vous donner un nombre parce que c'est vrai que pendant le festival, on engage des personnes sur 3 semaines, par exemple, hein, des assistants, des assistants régie. Là, on a besoin d'un peu plus de monde. Hein.
Est-ce qu'on a tout dit, Alain ?
Oui, on a tout dit.
Des tarifs ?
On a cette année, ils sont très bas. 6 euros, 5 euros, 6,50, voilà.
Ça, c'est fait.
Voilà. Oui, cette année, on a des journées professionnelles, hein, qu'on avait commencé un petit peu à mettre en place, puis qui là vraiment se développe. On a de très nombreux producteurs. Il y a l'association des producteurs de Drôme d'Ardèche qui sera là, producteurs de documentaires. Il va y avoir des sessions de pitch. Je crois qu'il y a déjà 75 inscrits. Donc tout le monde ne pourra pas, mais qui viennent présenter un pitch, qui ont, je crois, 15 minutes pour pitcher, ensuite 15 minutes pour défendre leur projet auprès de producteurs, projet de documentaire, de série. Alors, il n'y a juste pas fiction de long métrage, mais ou de court métrage. Donc voilà, c'est l'occasion de rencontrer des professionnels.
Et peut-être de voir son film, avoir un budget.
Absolument, tout à fait. Hein, voilà, donc voilà, c'est l'APA, c'est l'APPA, l'association des producteurs. Hein. Et puis on a une table ronde d'exploitants, hein, où on va avoir effectivement... Donc les exploitants, via les écrans, la CRIRA, vont être présents aussi pour parler des partenariats culturels éducatifs et puis de la diffusion des films.
Du 18 au 24 septembre, donc, à Montélimar, Le Teil, le festival de l'écrit à l'écran, 8e édition. Alain, merci.
Merci à vous.
À la prochaine.
Oui, avec plaisir. Ouais. Et puis, bon festival pour tous ceux qui vont venir.
Hey, the bird. L'interview du jour.